Grand Angle, les reportages grand format du magazine QI. Ligne de vie, un reportage de Morgane Kilikine et Jean-Christophe Attard.
L'immeuble était vivant, animé. La terrasse était toujours un lieu de vie, on faisait des tas de trucs. Quand les femmes ont commencé à travailler, les portes sont fermées.
Avant, vous entendez des gosses jouer, crier, chanter. Bon, les gens aussi chantaient, ou les maçons sifflaient sur leurs échelles. Il y avait une ambiance joviale. Tandis que maintenant, c'est bientôt le monde du silence.
À 24 ans, je me suis mariée, toujours avec un paysan. Et après, c'était différent. On travaillait dur, ça, c'est certain. C'était la misère noire. Ceux qui sont nés dans les années 20, nous avons été la pire des générations.
Nous, c'est dans la difficulté qu'on crée notre bonheur. Surtout dans le rapport garçon-fille. C'était très intense. Quand on se retrouvait, c'est la conjonction de quelque chose de magnifique.
Que diraient les anciens du monde d'aujourd'hui et de celui de leur enfance et de l'amour et du bonheur, de la vie en général? Et s'il suffisait d'aller le leur demander? Donner la parole aux anciens, c'est ouvrir un livre, un gros bouquin épais qui tient tout à la fois du roman, de la chronique, de la biographie et de la fresque historique. Et à mesure que se déroulent les chapitres, c'est voir la petite histoire se mélanger à la grande, les anecdotes côtoyer les grands faits, le micro et le macro marcher côte à côte. Aujourd'hui, ils frôlent ou tutoient les 100 ans, et ils ont tout vu, tout vécu. Les pires conflits armés et les années folles, l'explosion de l'industrie et la désertification des campagnes, la transition aussi rapide que violente d'une époque à une autre. Génération postée entre l'ancien et le nouveau monde, témoins et observateurs d'un siècle charnière, ils sont les derniers à pouvoir raconter ce que les plus jeunes ne font qu'imaginer et idéaliser. Au crépuscule d'une vie longue et bien remplie, ils posent un regard sur le passé, le leur et celui de leur époque. Une analyse sans concession ni complaisance, pas plus qu'ils n'en ont d'ailleurs pour la société d'aujourd'hui. Dans ce troisième épisode, nous sommes allés à la rencontre de Marie Bonnardi, une habitante d'Afa, bientôt centenaire, qui n'a jamais quitté son village. Elle a vu son environnement se métamorphoser progressivement sous ses yeux, et observer l'évolution d'une société qui est passée d'un monde rural à celui du gros bourg périurbain que l'on connaît aujourd'hui.
Je m'appelle Marie Bonnard, je suis née Minicole, 99 ans et 6 mois. Je suis née à Afa, j'ai toujours vécu. Voilà. J'ai fait quelques incursions sur le continent quand mes enfants étaient étudiants, qui ont passé quelques temps. Sinon, j'ai toujours vécu à Afa. C'est tout. Nous étions 9 enfants. 4 sœurs et 5 frères. C'était un village comme tous les villages de Corse. C'était très pastoral. Il n'y avait que des bergers et des agriculteurs. Il n'y avait pas d'autres. Et il y avait quand même il y avait pas mal de petits fonctionnaires qui vivaient à Marseille et qui revenaient l'été. Je n'ai pas connu de mon âge qui ont fait des études supérieures. J'ai eu une copine qui était institutrice. Sinon, moi, j'ai quitté l'école à 8 ans pour pétrir le pain et pour faire la lessive. J'étais l'aînée, alors. La fille aînée, à l'époque, c'était les filles. J'avais 2 frères jumeaux qui étaient mes aînés, mais des filles, j'étais l'aînée. Et à l'époque, tout tombait sur les aînés. Mon frère Jérôme et moi, nous avons pratiquement élevé ce qui venait après. Nous vivions une cuisine, une chambre, une cave et un grenier. La chambre était occupée par mes parents, avec le dernier-né, et les autres étaient au grenier. D'un côté, le lit des garçons, et de l'autre, le lit des filles. Et dans la cave, on stockait les pommes de terre, tout ce qu'il fallait pour faire la soupe. Les femmes ne travaillaient pas. Bon, c'est un leurre, hein. Elles ne travaillaient pas. Et mon père était journalier, hein. Labourait la journée, piochait les vignes la journée. Et après, moi j'ai quitté l'école, j'avais 8 ans, pour aider ma mère. Et un des jumeaux, il avait 9 ans. Lui aussi a quitté l'école, à Noan, pour aller travailler et ramener l'argent. Rintou et Isolde en casa. Je me rappelle, j'arrivais avec l'argent, je le mettais dans le tablier de ma mère. Ma foi. On le connaît. Et puis il y avait beaucoup d'écarts, beaucoup de différences. Maintenant, il n'y a pas de différence avec les gens, je vois. Mes enfants ont toujours été au même niveau que quels que soient les autres du village. Mes petits-enfants, alors n'en parlons pas. Mais de notre temps, il y avait un écart considérable. Il y avait encore un peu les gens. Ils étaient bien habillés, ils avaient des joujoux, ils sont allés à l'école jusqu'à tard, alors que nous autres, les enfants de paysans, on voyait beaucoup de différences. Il y avait ce côté, comment dirais-je, ce côté supérieur. Pas qu'avec les enfants, c'était même surtout les femmes. Les femmes qui avaient beaucoup d'enfants, qui n'avaient pas très dur, toujours. Alors que les autres, je les voyais assises sur leur chaise longue. Moi, j'aimais l'école. Je pleurais. Alors, ma maîtresse, qui me connaissait, qui savait, me disait à mon père, « Paul-Antoine, cette petite, pourquoi tu l'as envoyée de l'école? Tu l'as sortie de l'école, si intelligente. Ah, Jean-Gel, tu n'as plus andé. » Mais ce n'était pas vrai. Moi, je pleurais, je voulais. Donc, j'ai pleuré.
Avant-guerre, Marie continue à mener une vie paysanne, simple, heureuse, mais rude, où le travail à la maison alterne avec les travaux des champs.
À 24 ans, je me suis mariée, toujours avec un paysan. Mais après, c'était différent. On travaillait dur, ça, c'est certain, mais le travail était payé à l'époque. Tandis que dans les années 30, c'était la misère noire. Ceux qui sont nés dans les années 20, nous avons tout eu. Nous avons connu la misère des années 30, puis nous avons connu les restrictions de la guerre. Nous avons été la pire des générations. En 34, c'était la misère. D'ailleurs, il y a eu 1936. Vous n'avez pas entendu parler. Mais donc, il y a eu la révolte, hein. Même ici, on le sent. Mais alors, ça avait, à Paris, ça avait été. Même les bergers, même ceux qui travaillaient, ils vivaient dans la misère. Bon, après, on a planté des vignes, on a surtout fait les vignes, les arbres fruitiers. Les marchandises se vendaient bien. Moi, je me rappelle, mon enfance, on avait eu mal à écouler les productions. Le brouche, le fromage ne se vendaient pas bien. La farine de châtaigne non plus, l'huile d'olive n'en parlons pas, et on ne vendait pas bien la production. Alors qu'à partir de la moitié des années 40, c'est-à-dire ça a commencé pendant la guerre, les produits se vendaient. Il y a eu quand même une forte amélioration du niveau de vie.
La guerre arrive, avec son lot de privations, où chacun s'efforce de se débrouiller comme il peut pour survivre. Puis lentement, la condition des paysans s'améliore et Marie Bonnard y retrouve un peu de sa liberté en se mariant. Mais le labeur reprend vite le dessus et conditionne le reste de son existence.
Bien sûr, il n'y avait rien. Alors nous, on plantait le blé, on faisait la farine, on plantait le maïs, on faisait la farine de maïs. On ramassait la châtaigne, on faisait la farine de châtaigne et on montait pour moudre le blé, on montait d'ici au-dessus de Vico. Il y avait un minotier là-bas. Donc on montait au-dessus de Vico pour moudre le blé. Donc tout, on s'est débrouillé comme ça. Hein. On plantait le blé, l'orge, le maïs, les pommes de terre, tout. On vivait de ça. Et il y avait l'échange. On l'appelait le marché noir. Presque tout le monde l'a fait. Lorsque mes frères ont ouvert la boulangerie, enfin c'était mes parents, hein, pas mes frères, la boulangerie Minicole, que vous connaissez. Nous étions le 17 février 1947. Ça faisait 3 semaines que j'étais mariée. Et mon mari a avancé. C'est pas qu'il était riche, mais il était très débrouillard. Il a avancé l'argent pour payer la farine. Mais à l'époque, les clients, ils payaient au mois. On n'achetait pas le pain, on le payait. À la fin du mois, on payait. Mais des fois, on ne payait pas le premier. Hein. Ils ont mis du temps à avoir le roulement pour pouvoir payer la farine. Ils avaient ouvert la boulangerie en février. Et donc, bon, c'était les restrictions. Et donc, c'était la préfecture qui délivrait les bons.
Dans cet univers de travail et de subsistance, comment se formaient les couples? Quelle place restait-il à l'amour?
À l'époque, il n'était pas question d'aller. Il venait faire la veillée, les parents ici, et basta. Hein. Mais il y avait beaucoup d'écart entre les aînés et ceux qui... Par exemple, moi, je ne sais pas danser. Je n'ai jamais été danser. Je ne sais pas jouer au Scrabble, je ne sais pas rien. Alors que mes sœurs, qui étaient plus jeunes, elles sont allées danser. D'ailleurs, elles ont rencontré leurs époux. Enfin, il y avait beaucoup de mariages arrangés. Quand on s'est mariés, nous, il y a eu plusieurs mariages. Il y a eu nous et un autre qui étaient des mariages par inclination. Sinon, les autres, il y en a eu 7. C'était tous des mariages arrangés. C'était les parents qui rapprochaient. Et puis, il y avait un autre couple, c'était choisi, mais les parents n'avaient pas été d'accord. Soi-disant, il y avait une différence de caste. Il se levait, il s'est cassé. On a fait des choses. Moi, j'ai fait le brooch, le fromage, la charcuterie. On a élevé des cochons. On avait des brebis. Après, on a planté les vignes, les arbres fruitiers. Et ça a été ça, notre vie. On a eu la chance d'être en bonne santé, à la retraite, peut-être jusqu'à 80 ans.
Et le petit village d'Afa dans tout ça, comment Marie Bonnard le voit-elle évoluer?
Les gens vivaient, il y avait du monde sur les places, sur... des enfants qui jouaient, c'était non, pas du tout. Maintenant, il paraît qu'il y a 3500 personnes, mais on n'en voit pas. Hein. À l'époque, nous étions 500, mais on voyait du monde. Quand les gens commençaient à vendre le terrain, un appartement coûtait cher, alors que construire une maison, je venais moins cher. Ça a fait dire à mon frère, hein, un de mes frères qui a dit, si tout le monde avait fait comme vous, la fête était toujours comme avant. Parce que ça n'a rien apporté. Hein. On ne cherchait même pas si le terrain est constructible ou agricole. Les gens construisaient. Ce n'est venu qu'après, en 1977. Nous, par exemple, en bas, on avait les vignes, c'était constructible. S'il y avait petits-enfants, ils s'en fichent. Ils exploitent les figuiers. Mais à un moment donné, tout était constructible. Et c'est là que les gens ont vendu le terrain, ils pensaient faire des affaires. Ils croyaient que c'était cher, mais s'ils avaient réfléchi, il y a eu le journal argenté, lui, il n'avait pas dit ça. Quand Pourtouvé qui a commencé les gens qui ont vu les prix, il a dit, ne vendez pas. Un bédétémic à Ketaravera, qui est à Dakuda. Et lui, il voyait loin. Il avait raison. Et je ne pense même pas que c'était par besoin d'argent. Hein. Qu'est-ce que je vais en faire? J'ai aucune idée.
malgré l'inexorable avancée de la modernité, le changement d'un village qu'elle ne reconnaît plus, Marie nourrit-elle une certaine nostalgie du passé ?
Non. C'est dur. Enfin, en ce qui me concerne, c'était pas mieux avant. Pas du tout. On aidait les riches. D'ailleurs, il y a un proverbe corse qui dit. C'était pas un proverbe. Aiutez les riches qui portent, aiutez la parete. Et voilà. Les valeurs corses ont fait rire à moi. Hein. Écoutez, nous étions 9 enfants. Ma mère, personne ne l'a jamais aidée. Pourtant, il y avait du monde, du monde autour d'elle. On s'est aidés nous-mêmes. Alors, pour vous dire, moi j'ai eu l'exemple, je parle de l'exemple de ma famille. Non. On aidait plutôt les autres. Alors, moi je l'ai vécu, alors je peux vous le dire. Lorsque le 7e des enfants de ma mère est né, Pierre, j'avais 8 ans. Et il y avait la voisine était gentille. Et c'est la voisine qui m'a appris au lavoir à laver les couches. J'avais 8 ans. Et pourtant ici, j'avais 2 tantes et une grand-mère jeune et je ne les ai jamais vues venir aider ma mère. Alors vous voyez, moi par exemple, la notion d'amitié, je ne connais pas. Comme j'ai quitté l'école à 8 ans, je n'ai eu aucun contact avec mes pères. Et c'était le bon temps. J'ai une petite fille qui dit « Oh, comme c'était bien, maman. Oh, comme c'était bien, va. Je te l'ai éteste. »
Quatre profils, c'était, croyait-on, l'assurance certaine de pouvoir dégager des transversales, des tendances, des grandes vérités qui auraient balayé toute une époque et toute une génération pour lui tirer le portrait. Au fil des rencontres, il a en réalité d'abord fallu tordre le cou à cette idée préconçue. La société dans laquelle ils sont nés n'était certes pas encore devenue celle de l'hyperconsommation et du divertissement de masse. Les sollicitations et les possibilités n'étaient pas celles d'aujourd'hui et pourtant, les existences et les parcours ne sont pas des copier-coller les uns des autres. Si l'idée de pire génération est subjective, elle est en tout cas celle du grand écart, pour ne pas dire de l'écartèlement. Élevée dans un cadre rigoureux qu'elle a vu se désagréger, passer de trop peu à trop de, elle a accompagné un siècle particulièrement remuant. Aujourd'hui, forcément un peu déconnectée, elle n'en demeure pas moins une force témoin, postée comme en sentinelle aux portes d'un monde révolu qui a encore des choses à nous apprendre, si on lui prête l'oreille. Grand Angle, les reportages grand format du magazine QI. Ligne de vie, un reportage de Morgane Kilikine et Jean-Christophe Attard. Voix off, Jean-Christophe Madzone de la compagnie La Cible. Réalisation Jean-Christophe Attard pour l'agence Totem.